Bonjour à tous et bienvenue à notre émission des lecteurs sous les toits. Nous sommes aujourd'hui 6 autour de cette table. Claudine, qui vous présentera Stand Up d'Anthony McCarten. Robert, pour L'art en vers d'Olivier Adam. Sylvie, À ce stade de la nuit de Maëlys de Kerangal aux éditions Verticales. Alphonsine présentera Mort d'un berger de Franz-Olivier Gisbert. Guy, pour Une année studieuse d'Anne Wiazemski. Et Nathanaël pour L'étrange affaire du cadavre souriant de Miguel Miranda. Claudine va nous parler de Stand Up d'Anthony McCarten.
Alors, ce livre a une couverture particulière. On voit du rouge, on voit un rideau rouge et on voit ce qu'on imagine être une jeune femme en burqa, c'est-à-dire qu'on ne voit absolument que ses yeux, qui est devant un micro. Et c'est l'histoire d'une jeune femme musulmane qui voudrait bien être humoriste. Je m'appelle Azim. Je suis humoriste. C'est la première fois que je me produis en public. Je viens d'un secteur difficile du nord de Londres. C'est un quartier dur. Le jour où mon père a demandé à ma mère de me préparer pour mon premier jour d'école, vous savez ce qu'elle a fait pour me préparer ? Elle m'a traité de sale pute d'arabe et m'a volé mes sous pour la cantine. Merci, maman. Alors, comme je l'ai dit, je ne suis pas vraiment censée être ici ce soir. C'est contre ma religion. Mais qu'est-ce qui n'est pas contre ma religion, pas vrai? Je sais que vous êtes en train de penser, sans le sexe, le bacon et les fêtes de Noël, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Franchement, des fois, je déprime. Franchement. Et je sais ce que vous êtes en train de penser. Génial. Encore une musulmane suicidaire. Comme si le monde avait besoin de ça. C'est parce que je suis différente. Mes papas et maman sont nés au Kurdistan turc, ce qui veut dire que, en gros, on passe la plus grande partie de nos vacances à se faire contrôler aux frontières. Green Lanes, dans le nord de Londres. C'est plein d'immigrés maintenant. Je suis partagée au sujet des immigrés. Partagée, j'adore ce mot. Juste. Non, je suis partagée au sujet des immigrés. Ces merveilleux, précieux parasites suceurs de sang. Pas vrai? C'est pas vrai? Quel est le point commun entre les immigrés et les spermatozoïdes? Il y en a des millions qui entrent et il n'y en a qu'un qui bosse. Enfin bref, je viens de vous faire juste une petite démonstration d'ironie. C'est parce que je m'appelle Azim et que dans mon propre pays, on me considère comme une immigrée. Eh bien, je suis en mission. Ouvrir les yeux des gens, et aussi leur cœur, et aussi leur poche. Voici ma croisade. Montrer que même les fatwas, le terrorisme et l'extrémisme religieux ont leur côté marrant. Les gens me demandent souvent comment quelqu'un comme toi est devenu humoriste. Eh bien, c'est très simple. J'ai fait l'école du rire. Personnellement, je considère que toute école est une école du rire. Mais celle-ci était prête à admettre qu'elle l'était bel et bien. En fait, Azim a accompagné par hasard un copain à ce cours pour humoristes de Madame Kirsten Kohle. Kirsten Kohle est une femme impressionnante, d'un réel charisme. Le genre de professeur dont on a toujours eu envie et qu'on n'a jamais su. Quand quelqu'un comme elle parlait, il suffisait d'être là. Pour saisir une blague, il faut faire partie de la communauté de compréhension. Dans une bonne blague, nous sommes tous inclus, et c'est le privilège unique qu'elle accorde. Elle nous relie, nous laisse l'impression que nous sommes un peu moins seuls, un peu moins désespérés, qu'on nous comprend mieux. Elle nous prend dans ses bras. Azim commence à se produire dans de petits spectacles d'humour, mais elle a 20 ans, et sa mère veut la marier. L'agent matrimonial a déjà proposé en vain une quinzaine de prétendants. Azim Sel est découragé et l'agent se fait payer davantage car celle-là, on dirait qu'elle pense par elle-même et ça n'est jamais facile à caser. Eh oui, une fille qui pense par elle-même, difficile. Alors elle a l'idée de mettre un niqab pour son prochain spectacle. Pour l'acheter, elle se rendit à plusieurs kilomètres de son quartier de façon à ne pas être reconnue. Son idée était de refaire le chemin jusque chez elle, entièrement recouverte. Elle n'avait jamais porté de niqab et elle voulait se rendre compte de la façon dont les gens réagissaient. Dans la rue, elle eut une sensation vraiment inédite, comme d'être surprotégée, étrangère à elle-même et étrangère aux autres. C'était de plus en plus spécial. Elle voyait l'extérieur comme un mitrailleur au fond d'un bunker, seulement par une fente minuscule. Les gens entraient dans son champ de vision et en sortaient d'un seul coup. Dans le métro, elle se fit spectaculairement remarquer. Et à en juger par les regards qu'elle reçut, elle pouvait affirmer qu'une femme en niqab dans le métro représentait très clairement une offense pour beaucoup de Londoniens d'aujourd'hui. Certains semblaient même sur le point de se mettre à lui crier dessus, comme si elle était responsable du 11 septembre et de la guerre contre le terrorisme. Une femme musulmane humoriste, ça n'était jamais arrivé. Ça n'était pas pensable pour sa communauté. Son propre frère la gifle et elle reçoit des menaces de mort. Une ancienne camarade de classe vient de mourir, défenestrée. Elle était amoureuse d'un jeune Italien. L'assassin est-il son père, son frère? Comment vivre dans deux mondes si différents? Son ami Banu est marié. Et parfois son mari là-bas. Les hommes seront toujours les hommes, on sait comment ils sont. On ne peut pas les provoquer, lui dit son ami. C'était bien là une petite trahison. Stupéfiant, entendre Banu parler ainsi, comme c'était triste. Azim ne put s'empêcher de secouer la tête. « Mais est-ce que tu t'entends parler? Dis-moi que tu plaisantes. » Mais Banu ne s'excusait pas. Réfléchis à ça. Elle se tapota la tempe. « Réfléchis. Si tu persistes à faire quelque chose, alors que tu connais la punition qui peut venir, est-ce que tu ne dois pas emporter une part de responsabilité ?» Mais Banu, qui vient de se réconcilier avec son mari, qui a fait amende honorable, lui demande de lui dire une blague. Azim ne pouvait pas résister. « Eh, c'est un homme qui est resté plus ou moins dans le coma pendant plusieurs mois, mais sa femme restait quand même auprès de son lit tous les jours. Quand le mari se réveille, il lui fait signe de s'approcher. Une fois qu'elle est assise à côté de lui, il lui dit « Tu sais quoi ?» Banu a déjà un sourire en formation. « Quoi ? Tu as été avec moi pendant tous les mauvais jours. Quand je me suis fait virer, tu étais là pour me soutenir. Quand mon affaire s'est effondrée, tu étais là. Quand je me suis fait tirer dessus, tu étais à côté de moi. Quand nous avons perdu la maison, tu m'as soutenue. Ma santé a commencé à décliner, tu étais encore à mes côtés. Tu sais quoi ? Quoi, mon chéri ? Lui demande sa femme doucement. Je crois que tu me portes la poisse. À la fête de l'Aïd, Banu a donc accepté le repentir de son mari. Et Azim s'explique, elle, avec ses parents. Je ne peux pas être ce que vous voudriez que je sois. Je ne suis pas comme Banu, et j'espère qu'un jour vous viendrez me varger et que vous m'accepterez. » Sabite prononça le nom de son mari, c'est sa mère, s'attendant à ce que ce dernier écrase cette idée immédiatement. Mais au lieu de ça, Aristote n'eut qu'un petit haussement d'épaule pathétique et quelque peu démissionnaire. Lui dire quoi ? Qu'elle ne peut pas faire ça ? Mais pourquoi elle ne pourrait pas faire ça ? Elle n'a rien fait de mal. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal ? Azim regardait fixement son père. Nous sommes venus de si loin, continua-t-il. Et pourquoi ? Tout ce chemin pour qu'on nous dise ce qu'on doit faire ? Personne ne nous dit ce qu'on doit faire. Nous sommes pacifiques, nous sommes honnêtes, nous faisons honneur à notre communauté. Et cette fille veut faire rire les gens ? Quel mal y a-t-il à cela ? Personne ne l'épousera jamais, voilà ce qu'il y a de mal. Et finalement, elle est repérée par un agent qui lui offre de participer à un spectacle à Londres devant 15 000 personnes. Je vais vous parler de moi. Je suis d'une famille kurde de Turquie, mais je suis née ici, j'ai grandi ici, je suis allée à l'école ici, j'ai passé toute ma vie ici, et maintenant je travaille et je paie mes impôts ici. Et donc, en d'autres termes, je suis une étrangère. Et elle termine avec sa position sur la question du niqab. Interdire le niqab, interdire le niqab. Écoutez, oui, je suis prête à accepter l'interdiction. Oui, oui, je vois bien qu'il y a de bons arguments dans ce sens. Quand ils l'ont interdit en France, il y a eu une baisse de 98% des vols dans les magasins. Je le vois bien. Vos rayonnages seront plus sûrs. Mais je ne soutiendrai l'interdiction que si on interdit aussi le bikini et les t-shirts chez Guevara, et les ados avec leurs pantalons informes qui montrent leurs slips. Si on veut interdire toutes les merdes qui nous offensent, il faut y aller à fond. Et vous pouvez ajouter les blancs obèses qui se baladent en short cycliste le samedi matin. Si vous pouvez me dire comment m'habiller, moi aussi je peux le faire. Les spectateurs applaudirent. Voyez comme ça serait facile de faire la paix dans le monde. Voilà, c'est donc Stand Up d'Anthony McCarten chez Piranha.
Robert va maintenant nous parler de La Renverse d'Olivier Adam, paru chez Flammarion en 2016.
C'est le 12e livre d'Olivier Adam, qui n'a que 41 ans. Donc on peut dire que c'est un écrivain prolixe. Le cadre du roman, c'est une ville moyenne qu'Olivier Adam décrit ainsi. Cette ville est la dernière manifestation de la banlieue à 50 km de Paris, avant que la campagne normande ne prenne le dessus et s'étende jusqu'à la mer. Autre élément important du roman, c'est une famille qui vit dans cette ville et que le fils aîné Antoine, qui est le personnage principal, décrit ainsi. Nous formions une famille singulière, désertée par la joie, plombée par l'esprit de sérieux, glacée par une tristesse diffuse, indéfinissable, figée dans une réserve et une pudeur maladive qui interdisait toute étreinte, toute confidence, toute tendresse manifeste, toute intimité réelle. De toute façon, tout allait de soi à mes yeux, comme tout va toujours de soi pour les enfants, les lieux dans lesquels ils vivent, le couple que forment leurs parents, rien ne leur paraît vraiment étrange, ni déplacé, ni simplement questionnable. Évidemment, aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de penser que quelque chose clochait, que mes parents formaient un couple mal assorti, que si la vie qu'ils menaient convenait parfaitement à mon père, qui ne demandait rien d'autre à l'existence, à qui je n'ai jamais connu de passion ni de centre d'intérêt particulier, par contre, ma mère jouait un rôle de composition, se mentait à elle-même et y étouffait. Mais à l'époque, rien de tout cela ne m'apparaissait. Donc dans ce roman, Olivier Adam va retracer l'itinéraire d'Antoine, qui au début du livre parle ainsi de lui-même. On s'étonnait parfois que je vive là, seul, à mon âge. Moi-même, il m'arrivait de ne pas savoir. Aimais-je vraiment ce retrait, cette solitude et le bruit permanent de la mer, la compagnie des oiseaux, la dune et les ouïas vibrant dans l'air frais du matin? Était-ce une vie? C'était la mienne en tout cas, avant que tout éclate, que tout s'ouvre sous mes pieds et s'effondre. En effet, alors qu'il n'avait que 17 ans, un scandale public à caractère sexuel avec dépôt de plainte éclate dans la ville et il implique la mère d'Antoine et son amant, qui est le maire de la ville et qui est aussi ministre délégué d'un gouvernement et qui donc joue un rôle politique important dans la région. Le roman raconte en détail les différentes péripéties de ce scandale dans la ville et les humiliations subies par Antoine et son jeune frère qui préférera quitter très tôt la maison familiale et aller vivre chez son oncle à Bordeaux. Et Antoine, dans ce contexte, comment va-t-il réagir vis-à-vis de sa mère? Va-t-il la condamner? Je vous lis maintenant un dernier extrait pour illustrer cela. Nous formions une famille singulière. Non, pardon, ce n'est pas le bon extrait, excusez-moi. J'y arrive. Certains jours, j'en venais à me demander si le mal qu'avait fait ma mère, son comportement, les fautes qu'elle avait commises étaient à ce point impardonnables. Aujourd'hui, je me pose la question. Après tout, il y avait eu un non-lieu. Après tout, je n'avais rien vu, rien appris directement. Je n'avais été témoin de rien et je m'étais désolidarisé. J'avais renié sans preuve. Quel enfant étais-je? Quel fils étais-je pour haïr ainsi mes parents, les déclarer coupables, les condamner et les fuir? Au fond, dès le début, j'avais choisi mon camp, même sans en avoir pleinement conscience, et ce n'était pas celui de ma mère. Antoine va très tôt quitter la maison familiale et ne plus voir ses parents, et vivre, on pourrait dire plutôt survivre, souvent seul. Mais un jour, il va décider de vivre vraiment. Que va-t-il faire? Je vous laisse le découvrir en lisant ce grand roman sur l'impunité et l'humiliation explorée au sein de la famille comme dans l'univers politique. Une dernière information au sujet du titre, La Renverse, c'est la période qui sépare deux phases de marée et durant laquelle le courant devient nul. Pourquoi ce titre? Peut-on s'interroger. À vous de trouver l'explication en lisant ce roman que je vous recommande, paru donc aux éditions Flammarion.
Je vais maintenant vous présenter « À ce stade de la nuit » de Maëlys de Kerangal aux éditions Verticales en 2015. Tout d'abord, il faut savoir que ce très court récit, 74 pages, est le fruit d'une commande à l'occasion des 14e rencontres littéraires en Pays de Savoie, dont le thème était les paysages. La narratrice rentre tard chez elle et écoute la radio de sa cuisine. Lampedusa, 500 migrants ont fait naufrage, il y aurait 300 victimes. Son esprit fatigué vagabonde à partir de ce toponyme, Lampedusa. Lui reviennent alors les images de Burt Lancaster dans Le Guépard de Visconti, tirées d'un roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, qui raconte la fin d'un monde, la chute de la noblesse sicilienne, une forme de naufrage, comme une métaphore. Ses pensées vagabondent ensuite vers des noms propres, qui sont aussi des noms de lieux. Par exemple, le village de Maëlys, le prénom de l'auteur, dans les Landes, ou celui de Kerangal, le nom de l'auteur, dans le Finistère. Elle se demande comment les hommes ont déposé des noms sur la terre. On va vous lire un petit passage concernant cette interrogation.
Soudain, je me suis demandé comment les hommes avaient déposé les noms sur la terre. Je me suis demandé dans quel réservoir les hommes avaient puisé les sons et les signes qui marquaient, bornaient, identifiaient, localisaient des points sur le territoire, comment ils avaient inventé des mots suggérant, parfois autre chose qu'eux-mêmes, des histoires, un émerveillement, ou plutôt une domination, une exploitation, une violence politique. J'ai pensé aux fantômes qui logeaient dans les noms et je me suis demandé comment les entendre, comment les percevoir.
Elle fait une description très réaliste des marins malades et harassés de Christophe Colomb débarquant aux Amériques. Ils ont la gale, le scorbut, des poux jusque dans les sourcils. et leurs vêtements raides de crasse sont bouffés de vermine. Leur sexe les démange. Ils sont scrofuleux et se grattent jusqu'au sang. Des charognes. Ils ont perdu des dents.
Les canots tanguent et les hommes salivent. Quand le fond de l'esquif touche la plage, ils enjambent le bordé et plongent un pied dans la mer, de l'eau, jusqu'à mi-cuisse, puis l'autre. Le canot est déséquilibré, éclaboussure, crie, certains chutent, se relèvent et retombent en arrière, trempés, le sel corrodant déjà le fer de leur cuirasse. Puisqu'ils sont casqués, armés et lourdement bardés, ils avancent sur le sable et y tombent à genoux. Ce signe, tandis qu'un prêtre décharné, flottant dans une loque de surplis, la chasuble en poussière, mais le regard en feu, brandit un crucifix à bout de bras vers le ciel, dévoilant des poignets blêmes aussi maigres que ceux d'une fillette et baptisant le sol.
Et ceux qui observent les nouveaux venus, ceux-là tapis dans le sous-bois, ceux-là chuchotant dans leur langue, le visage déformé par l'étonnement, ceux-là se nommant « petit orang » ou « cheval volant dans la plaine », « rocher de feu » ou « colline bombée comme un sein de jeune fille », ceux-là retiennent leur souffle, maintenant s'affolent et se transmettent les noms, tous les noms de leur terre. Elle décrit aussi des îles qui fascinent. Il y a de superbes pages sur l'arrivée en bateau au volcan Stromboli. Dont on va vous lire un petit passage.
J'ai accosté à Stromboli pour la première fois à 5 heures, un jeudi d'août en 1994. J'avais embarqué depuis Naples sur un paquebot de la Sirène Mar et je me souviens d'être sortie sur le pont une demi-heure avant l'arrivée prévue sur l'île. Première escale d'une route maritime qui distribue tout l'archipel. Panarea, Salina, Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi.
C'est elle, c'est lui, l'île, le volcan. Et tout à coup, ça se précise. Le paysage s'arrache du flou où la distance et la nuit le tenaient au secret. Il se libère et construit tout l'espace en retour, les lignes et les masses, les échelles et les profondeurs de champ, les valeurs de couleurs dans la lumière limpide. Je distingue maintenant la fumerole soufrée, grisâtre, qui embrouille le sommet du volcan. Son regard glisse ensuite sur sa map monde et plus précisément sur le petit point de Lampedusa où elle imagine les éponges dorées au fond de la mer, les corps des plongeurs sous la surface des eaux, les épaves, les cadavres.
À ce stade de la nuit, la map-monde chauffe doucement dans la chambre. Une ampoule de faible voltage est l'éclair de l'intérieur, analogue au noyau interne qui concentre l'énergie du feu sous les différents manteaux de la croûte terrestre. Je me suis approchée. C'est une sphère de verre recouverte d'une fine couche de papier saturée de signes, de formes et de couleurs.
De Paris, qui l'a ciblé illico, mon regard a dévalé vers le sud par ricochet, touchant successivement Méditerranée, Naples, Etna, Sicile, après quoi il a freiné sur un espace bleu, translucide, a balisé la zone, sa forme irrégulière, ses contours de flaques, et je me suis penchée un peu plus. Me suis penchée afin de voir si les éponges dorées que l'on pêche dans la zone tapissaient le fond de la mer, si les corps des plongeurs se déformaient sous la surface de l'eau. J'ai localisé un point microscopique, une pastille indifférente au continent dont j'ai déchiffré les 9 lettres pâles, ténues, Lampedusa.
C'est l'un des points les plus méridionaux de l'Europe, à même latitude que Chypre et Malte, ou presque. J'ai voulu voir si l'île était plus proche de la Tunisie ou de la Sicile, à quoi l'on rattache l'archipel des Pélages, auquel elle appartient. Lampedusa, Linosa et Lampione. Trio de sœurs dispersées.
Et j'ai vérifié ce qui est visible à l'œil nu. Lampedusa est seule au monde. Voilà, alors c'est un petit livre que j'ai trouvé plein de poésie et que je vous recommande vraiment. Ça s'appelle « À ce stade de la nuit » de Maëlys de Kerangal. Maëlys de Kerangal qu'on connaît bien à Manosque, puisqu'elle est venue en 2010 à nos apéros littéraires des correspondances pour le livre « Naissance d'un pont » et on avait pris beaucoup plaisir à la recevoir. Voilà. Alphonsine va maintenant vous présenter « Mort d'un berger » de France-Olivier Gisbert, paru en 2004.
Donc, l'auteur est né en 1949 aux États-Unis d'un père américain et d'une mère française. Il sera successivement journaliste, grand reporter. Il entre au Nouvel Observateur en 1971. Ensuite, directeur du Figaro et depuis 2000, il est directeur du Point. Il a publié également des romans et des biographies. Mort d'un berger a reçu le prix du livre de Montagne Anquera. L'histoire se déroule dans le Mercantour et l'intrigue policière, bien ficelée, nous séduit. Tout au long du roman, on partage la vie du berger en alpage, la transhumance, les soins, les attaques de loups ou de chiens, on ne sait pas. Les protagonistes sont nombreux à partager les soucis du berger, Marcel Parpaillon, et de son aide, berger, de son aide berger, dit Mohamed VI. Il y a la mort du fils, accident ou meurtre, l'incendie de la villa de son voisin et mort de celui-ci carbonisé. Il y a le brave curé du village, un petit peu alcoolique, et les gendarmes qui cherchent à élucider tous ces mystères. Ils font appel à Marcel, c'est un homme quand même taciturne, mais plein de bon sens. Il y a également Juliette, l'amoureuse de Mohamed VI, l'écrivain un peu raté, et tout cela d'une écriture poétique, pleine d'amour, de tendresse, mais aussi la violence des sentiments, de l'humour bien sûr. Des descriptions magnifiques, des paysages comme un personnage à part entière, et l'évocation des sentiments amoureux. Moi je vais vous lire deux extraits. La fin du monde, ce sera quand le soleil et la terre se mélangeront pour former la même soupe lumineuse. Dans le Mercantour, au nord de la Provence, là où les Alpes commencent à fatiguer. C'est souvent la fin du monde, surtout l'été. Ce jour-là, par exemple, l'air ébouillantait tout, les yeux, les bras, les jambes, mais aussi les poumons. C'est pourquoi il respirait à petites goulées, Marcel Parpaillon, en montant le sentier pentu qui menait à la bergerie. Avec ses moutons, Marcel Parpaillon avait beaucoup de mal à parler. C'était comme des prolongements de lui-même, et on ne parle pas à ces prolongements, sauf à son entre-deux, et encore, dans certains cas seulement. Son troupeau faisait dans les 2000 têtes, des têtes en l'air, autant vous dire. Comme nous autres, souvent, les moutons ne sont pas bons à penser, ne sont bons à penser qu'au repas en cours ou au prochain. À force de suivre leur ventre, avant toute chose, ils se mettent en danger sur cette terre, où tant de monde veut les bouffer. Les tiques, les puces, les miases, les chiens errants ou le premier venu. Le peuple des moutons a toujours les barbares aux portes, parfois au cul. C'est pourquoi le vieil homme avait quelque chose de Moïse, choisi par le Tout-Puissant quand il aperçut, dans le désert, un agneau blessé dans les bras. La même figure de compassion, la même férocité aussi. Mais il n'était plus à la hauteur après la mort de son fils. Le lendemain, il avait embauché le garçon de peine que Patrick utilisait souvent pour les coups de bourre, l'estive, la taille des onglons ou la tonte de printemps. Il lui avait dit « Je compte sur toi, petit tout, je n'ai plus personne maintenant. » Quand je regarde derrière moi, il n'y a plus qu'un grand trou noir. Je voudrais que tu sois ma lumière dans mon dos pour m'aider à vivre encore un peu. Il ajouta qu'il aurait en sus le coucher et le manger. Le petit tout ne répondit rien. C'était un arabe de 17 ans et quelques, visage d'angelot, cheveux bouclés. On le surnommait Mohamed VI. Il ne se déplaçait jamais sans son écureuil à la patte coupée, une bête qu'il avait sauvée, quelques mois plus tôt, des crocs d'un chien, et qui passait son temps dans sa musette ou sur son épaule à narguer le monde. Mohamed VI ne desserrait jamais les dents, que pour sourire, parfois, ou pour jouer de la flûte, un muet. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce livre, je vous le conseille vivement, c'était « La mort d'un berger » de France-Olivier Gisbert.
va maintenant nous présenter Une année studieuse d'Anne Wiazemski, parue en 2012.
Juin 1966. La narratrice vient d'envoyer une lettre d'amour à Jean-Luc Godard, qu'elle connaît à peine. Elle l'a croisée sur le tournage de Au hasard Balthazar, film de Robert Bresson. Lui, il l'a repérée sur une photo des cahiers du cinéma. Anne a raté une partie de son baccalauréat et doit passer le rattrapage en septembre. Elle part réviser chez une amie dans le sud de la France. Un soir, elle reçoit un coup de téléphone de Godard qui lui annonce qu'il désire vivement la rencontrer. C'est le point de départ de leur histoire d'amour. Elle a 19 ans, lui 35. Godard désire l'épouser. De son côté, Anne est profondément troublée par Godard, qui lui révèle pour la première fois les délices de l'amour physique. En septembre, elle réussit son bac et s'inscrit en licence de philo à Nanterre. Elle déchante assez vite sur l'enseignement dispensé. Sa famille, très conservatrice, il ne faut pas l'oublier qu'elle est la petite fille de François Mauriac, qui depuis la mort de son père est devenu son tuteur, Anne ne cédera pas en dépit de l'affection qu'elle porte à sa famille et à leur opinion sur l'éducation des jeunes filles. À Nanterre, on sent déjà les prémices de mai 68. Anne rencontre Cohn-Bendit, qui la poursuit dans les couloirs en criant « Solidarité des rouquins, solidarité des rouquins !» Anne a aussi beaucoup de mal à supporter la jalousie de Godard, qui la suit partout, la harcèle de coups de téléphone à toute heure du jour et de la nuit. Leur relation est parfois tumultueuse. Ils finissent par se marier, en Suisse, un mariage très intime. D'ailleurs, un régal de lire la réaction du maire, que je vous laisse le soin de découvrir. Début 67, Godard commence le tournage de La Chinoise, dont il a écrit le premier rôle pour Anne. La présentation du film au Festival d'Avignon par Jean Villard est un pur moment de bonheur. Adieu d'année studieuse qui, au fond, aura été celle de la vie. Une année studieuse est aussi le reflet passionnant de la fin des années 60. La France est en train de connaître de grands bouleversements politiques, idéologiques, moraux, artistiques. Toutes ces valeurs habitent le récit. D'abord Anne qui s'oppose à sa famille et ainsi révèle le fossé générationnel. L'histoire d'amour entre Anne et Godard, qui démontre un changement de mœurs. Le cinéma de Godard, iconoclaste et radical. La description de la faculté de Nanterre et des frasques de Dany le Rouge. Un livre remarquable d'intelligence et de vivacité. Je vais vous lire un extrait qui montre à la fois le désarroi d'Anne face à Jean-Luc Godard et face surtout à sa famille. À la maison, la guerre continuait. J'y passais le moins de temps possible, prise par mes cours à Nanterre, Jean-Luc et l'appartement des Jansons, chez qui je me réfugiais souvent. Francis continuait à être le seul qui rendait la philosophie vivante. Jean-Luc parfois en prenait ombrage et se plaignait de ne pas me voir assez. Il était sur le point d'avoir enfin les clés de son appartement et souhaitait que je m'y installe avec lui. Soir après soir, je lui répétais que ma famille ne l'accepterait jamais, que j'étais mineur jusqu'à mes 21 ans et de ce fait sous la tutelle de mon grand-père. Quand il insistait trop, je me fâchais et rentrais chez moi très perdu. Dans ces moments-là, il m'arrivait de penser qu'il m'aimait bien plus que je ne l'aimais. Cela me rendait coupable envers lui, comme envers ma famille. Je me jugeais lâche, infantile, sans désir, sauf celui de prendre la fuite. À la fin d'une morne journée à Nanterre, je revins à la maison en arborant un nouveau pullover, en Shetland de couleur jaune. Ma mère me demanda avec agressivité si c'était encore un cadeau de Jean-Luc, et je lui répondis la vérité. Je venais de l'acheter avec ce qui me restait de mon salaire d'Au hasard Balthazar. Mais ma mère ne me crut pas, et prise d'une colère invraisemblable, m'accusa de me faire entretenir. « Il te donne de l'argent, il t'achète » cria-t-elle, plusieurs fois tandis que je protestais, blessé, puis en colère moi aussi. « Tu es sur une mauvaise pente, et tu vas faire les pires conneries de ta vie, » dit-elle. « Heureusement que ton pauvre père n'est plus là pour voir ce que tu deviens. » Assommé par l'évocation de la mort de mon père et par le mépris terrible qu'il animait, j'en murmurais sur un ton que j'espérais neutre. Ce sont des paroles comme ça qui vont me donner le courage de partir. Et elle, avec haine, une haine que je n'aurais jamais pu soupçonner, Si tu crois que c'est pour moi que je te garde, depuis longtemps j'ai fait une croix sur toi. Je me fiche de ce que tu peux ou veux faire dans la vie. Je te garde ici uniquement à cause de mes parents. Tu m'entends ? De mes parents. » Ces paroles terribles m'atteignirent profondément. Quelques heures après, je tenterai de les replacer dans le contexte douloureux où elles avaient été prononcées, de trouver des excuses au comportement de ma mère. Je me considérais même comme la plus coupable et j'écrirai dans mon journal « Les coups que je rends à maman, avec rage, me rendent toujours plus malade de honte. » Voilà, donc c'était un de mes coups de cœur, une année studieuse de Anne Wiazemski chez Gallimard.
On va changer complètement de style avec L'étrange affaire du cadavre souriant de Miguel Miranda, paru à l'Aube Noire en 2015 et présenté par Nathanaël.
Alors, je vais vous présenter brièvement l'auteur, Miguel Miranda. C'est un médecin généraliste qui donc a écrit plusieurs policiers. Il est portugais. Il se lance dans l'écriture en 90. En fait, il est médecin le jour et écrivain la nuit. Et même s'il a écrit plusieurs romans policiers, seuls trois sont traduits aujourd'hui en français. Et en fait, L'étrange affaire du cadavre souriant a été écrit en 1997, mais nous est parvenu qu'en 2014. Et c'est pour ce livre qu'il avait reçu le prix Camino, un prix portugais consacré à la littérature policière. Il écrit également des livres pour la jeunesse. Alors, rentrons dans notre livre. C'est donc un policier. Mario Franca est détective privé à Porto. Comme tas de ses congénères, il tire le diable par la queue et il s'étiole le plus souvent à chercher des preuves d'infidélité ou le chien perdu d'une vieille femme désespérée. Aussi, lorsque Arthur Clemenson, représentant d'une riche famille anglaise propriétaire d'un grand vignoble de Porto, lui demande de trouver qui a pu assassiner sa tante Gladys, il bondit sur l'affaire et surtout le chèque qui l'accompagne. Apparemment, Gladys s'est suicidée d'une balle dans la tempe droite, mais elle était gauchère. Et l'arme est dépourvue de toute empreinte, et sur son visage, à la morgue, flottent les traces d'un sourire énigmatique. Autre surprise découverte lors de sa visite donc à l'Institut médico-légal pour examiner le cadavre de Gladys Clemenson, il va trouver le cadavre troué de 4 balles de Lopez Tostil, un vieux compagnon de lutte de Franca du temps où le peuple se battait les armes à la main contre la dictature de Salazar et les milices fascistes. Ainsi, notre privé va se lancer sur les deux pistes. Celle du tueur de Gladys Clemenson, la riche héritière, la riche propriétaire donc de vignobles du Porto, et sur celui de son ami de lutte, savoir qui l'a tué. Et du coup, on va rentrer dans ces deux univers, dans celui donc de ces riches familles anglaises, puisque le Porto est prisé par les Anglais, tellement prisé qu'en fait, ils sont restés propriétaires à peu près depuis le XVIIe siècle. Au tout début du XVIIe, enfin au XVIIe siècle, Colbert va faire un embargo sur des vins de Bordeaux que les Anglais prisaient, aimaient consommer. Et ce faisant, il va tourner les Anglais vers le Portugal où ils trouvent ce même vin. Et du coup, ils vont s'approvisionner, ça y est, j'y arrive, et même acheter des terres qu'ils conservent jusqu'à aujourd'hui. Et d'un autre côté, on va remonter dans le temps avec notre privé qui va se remémorer toutes ces luttes donc pour renverser la dictature de Salazar. Avec Sylvie, nous allons vous lire le début du livre.
Le bouchon de Dom Pérignon roula doucement, poussé par un courant d'air invisible. Il est curieux de voir comment un si petit objet, auquel personne n'avait porté la moindre attention, me permit de recueillir autant d'informations. Mon intuition me le fit porter à mes narines pour flairer son bouquet de champagne fruité, et il me révéla aussitôt d'autres parfums inattendus. Des traces de Chanel numéro 5 et de cigares Monte Cristo, une suggestion de rouge à lèvres Survey et de bismuth sur une base écœurante d'Old Spice, et enfin une âcre odeur de sang incrustée comme une traînée de poudre qui me donna le frisson. Le tout concentré dans un petit champignon de Liège.
Plongée dans un lourd silence, la pièce vide ressemblait à une scène de théâtre abandonnée après le dernier acte. Comme si le public venait de se lever pour m'applaudir, moi, Mario Franca, un des meilleurs détectives du monde, je souris chaque fois quand j'y pense. Quelle folie ! Il y a toujours quelqu'un, où que ce soit, prêt à applaudir n'importe quoi. Que me coûte pourtant d'imaginer une telle ovation ? Quand je recopie des documents à la lumière d'une lampe torche, quand je suis discrètement une voiture à travers les rues de Porto, quand je me déguise en vadeur de Marocho pour assister au manège des dealers à Santa Catarina, ou quand je me fonds dans la foule anonyme de la rue sur les talons d'un mari infidèle.
Ces rêves de grandeur m'aident à supporter les longues nuits de veille recroquevillées sur le siège de ma voiture, m'aident à oublier les misérables horaires que je suis obligée de facturer pour ne pas effrayer la clientèle. Ingrats, ils veulent toujours un service de luxe pour une misère.
Des ingrats, oui, incapables d'apprécier le talent hors du commun qu'il est nécessaire de posséder pour pouvoir déduire, grâce aux seules odeurs renfermées par ce petit bouchon de champagne, que la mort de Gladys Clemenson n'a rien de naturel, que le probable assassin souffre de gastrite et que le fumeur de cigares est certainement une tierce personne qui pourra m'aider à éclaircir beaucoup de points quand je l'aurai démasqué. Alors, notre détective, il y a un peu toutes les composantes hein, de ce qu'on attend d'un roman policier. Et bien sûr, il va rencontrer chez les Clemenson la femme fatale, la magnifique femme qu'il soupçonne d'être responsable du meurtre de sa tante, mais qu'il aimerait bien qu'elle ne soit pas responsable parce qu'il la trouve vraiment magnifique. Donc, c'est le passage où il la rencontre. Je me suis tournée instinctivement dans la direction d'où venaient les notes fruitées du célèbre parfum. Il n'y avait aucun doute. Chanel numéro 5. J'ai ensuite attendu des pas, à la fois légers et fermes, et Sheila Clemenson a fait irruption dans la pièce, s'avançant vers moi avec un sourire de bienvenue. Je me suis levée en prenant immédiatement la posture froide et distante d'un détective professionnel. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à une telle œuvre d'art. J'avais imaginé une grande matrone, osseuse, ayant déjà largement dépassé la date de péremption. Mais la femme aux longs cheveux cuivrés qui se tenait devant moi devait avoir une trentaine d'années. Elle était plutôt petite, élégante, sensuelle. Et ses yeux, mon Dieu, ses yeux, des lacs bleus et rêveurs dans lesquels on plongeait sans aucune certitude de remonter à la surface. Et comme je vous l'ai dit, il va également, en plus d'enquêter sur la mort donc, de Gladys, la riche propriétaire des vins de Porto, il va également, en parallèle, mener son enquête sur son ami de combat, de lutte, qui a été assassiné. Et pour ce faire, il va utiliser toutes les méthodes qu'ils utilisaient quand ils étaient dans la lutte clandestine, c'est-à-dire mettre un petit message sur un journal, juste un petit peu, et il se donne rendez-vous avec un ancien ami, et là, on remonte dans son passé. Donc, son ami est venu et ils attendent une tierce personne dans un bar. Bailerino, c'est son ami, était sur les dents et je le connais dans ces moments-là. Il n'y a rien à en tirer. Je me suis donc assis plus confortablement et j'ai tourné mon regard vers le large, à travers les vitres embuées de vapeurs saumâtres. La mer moutonneuse entourait le promontoire sur lequel le bar était posé en équilibre. Un endroit vraiment étrange pour un rendez-vous. Je me suis appuyée davantage sur le dossier de ma chaise, comme s'il était possible de reculer dans le temps. Et je me suis souvenue des cheveux courts couleur d'étoupe d'Adélia, de la barbe bouclée du professeur, les penseurs de l'organisation. Je les ai revus se réveiller, les yeux encore englués de sommeil dans les combles de notre siège, pour vivre un jour de plus la révolution. Ils nous apportaient des nouvelles de Palma Ignacio et de Camillo Mortaga, célèbre opposant au régime de Salazar. Parfum d'aventure et de rêve qui alimentait notre certitude que nous suivions le bon chemin. J'ai revu la crinière de Saltan, un agent aux larges épaules qui parlait peu et à qui je devais ma promotion de sympathisant à militant après un attentat d'intimidation derrière le palais de Pesténas. J'ai revu le sourire de Joconde à lunettes du docteur Berthaud, une véritable assurance-vie quand quelqu'un était blessé pendant une opération. Enfin, les lèvres fermes et les yeux d'acier d'Elsa qui manie avec tant d'habileté un fusil mitrailleur G3. Il me vient des larmes aux yeux quand je pense à elle et au geste rapide de la main avec lequel elle nous a dit adieu le jour où elle nous a quittés, sans expliquer pourquoi. Il passe ainsi en revue ses amis. Les souvenirs de cette époque se bousculent dans ma mémoire tandis que je regardais le visage fermé de Bailerino. Pourquoi ce crétin gardait-il le silence, comme si on était encore en pleine clandestinité? Comme s'il se plaisait à entretenir le mystère sans même me dire s'il avait pu contacter quelqu'un qui pourrait nous aider à éclaircir la mort de Lopez Trotil. Et là revient en mémoire ce qu'il était capable de faire à l'époque. Il va regarder les yeux de Bailerino, qui étaient des eaux calmes et transparentes dans lesquelles je voyais les images du passé, tout en commençant à perdre mon calme. « Garde ton calme !» criait ma petite voix intérieure devant le siège du Parti communiste portugais en flammes, alors que j'étais là, en plein milieu, envoyée avec le chat au premier rideau. À notre poste d'observation, installé dans un grenier, armé jusqu'aux dents avec des fusils automatiques et des grenades plein les poches, notre mission était d'organiser la défense du bâtiment assiégé et de prendre en filature les membres de l'ELP, qui était une armée de libération du Portugal, mais paramilitaire terroriste d'extrême droite, à l'origine de la provocation. Mais les choses commencèrent à se gâter avec ce début d'incendie et la débandade de civils dans les rues qui pouvaient rapidement devenir des victimes innocentes d'une fusillade croisée. Alors, l'ordre est venu directement de Lisbonne, dicté par le nouveau commandement de l'armée, l'évacuation immédiate de la zone par la police militaire, qui provoqua un mouvement de foule dans lequel nous nous sommes glissés, désarmés, incognito, dissous dans l'anonymat. « Du calme !» ne cessait de crier une petite voix intérieure, tandis que nous éclipsions au bout de la rue sans égratignure. Alors, il se rappelle quand, en fait, il va découpiller des grenades, ils vont faire des coups. Et maintenant, en plongeant dans les lacs immobiles des yeux de Dilio Bailerino, je ne peux m'empêcher d'éprouver de la rage en pensant au nombre de fois où j'ai risqué ma peau dans leurs satanées épreuves d'initiation, le plus souvent sans mesurer le danger, sans avoir la notion exacte de ce qu'on faisait, ni du sens que ça pouvait avoir. La seule chose qui compte, au fond, comme disait Kim, c'est de toujours savoir garder son calme. Bailerino enfin remuait et je compris qu'il allait se passer quelque chose. Il est arrivé. Voilà, donc ce roman, ces deux intrigues vont, je ne vous dis pas plus, mais en fait, sont extrêmement intéressantes, nous donnent une image du Portugal que moi, personnellement, je ne connaissais pas. On connaît un petit peu la révolution des œillets, mais pour moi, c'était des images assez vagues. Je ne savais pas qu'il y avait eu toutes ces luttes intestines, tous ces groupes armés. Je ne savais pas non plus que donc les riches Anglais continuaient à posséder des terres à Porto. Et du coup, on est transporté vraiment ailleurs. On est aussi, il n'hésite pas, même s'il nous montre les demeures luxueuses, donc anglaises, des propriétaires, il n'hésite pas aussi à montrer le Porto des quartiers où notre héros est censé vivre, où c'est glauque, où il y a de la prostitution. C'est un port, Porto, c'est pas très loin d'un port. Et du coup, il y a tous les trafics d'hommes, de femmes. Et ça, il ne nous l'épargne pas non plus. Donc, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un polar, mais qui est très riche et qui nous amène à finalement nous renseigner sur un pays que pour ma part, je ne connaissais pas vraiment, ni dans son histoire actuelle, ni un petit peu plus ancienne. Voilà, donc je vous le recommande. C'était de Miguel Miranda, L'étrange affaire du cadavre souriant. Merci.
Je voudrais maintenant vous parler des rendez-vous de mars. Vous savez que nous avons un auteur en résidence cette année à Manosque qui s'appelle Pierre Ducrozet. Le mardi 15 mars, aura lieu le comité de lecture, comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, à 18h à la médiathèque de Manosque. Et Pierre Ducrozet sera notre invité. Pierre Ducrozet a écrit plusieurs livres, en particulier un livre qui s'appelle « Héroïka » et qui décrit la vie du peintre Jean-Michel Basquiat. Donc ça, c'est le mardi 15 à 18h. Le mercredi 16 à 18h aura lieu un atelier d'écriture avec le même Pierre Ducrozet, organisé, donc animé par Pierre Ducrozet. Avant-hier, il restait encore 2 places. Il faut s'inscrire auprès des correspondances, auprès de Marie, ou qui nous quitte bientôt à la fin du mois, ou d'Émilie, c'est la collègue qui la remplace. Donc, c'était l'écriture, je ne peux pas vous en dire davantage, si ce n'est que ça durera toute la journée du mercredi 16. Et le jeudi 17, sur cette même antenne, sur Fréquence Mistral, nous viendrons à 15h pour l'émission des lecteurs sous les toits, accompagnés de Pierre Ducrozet. Voilà, et je voulais également vous signaler un film au cinéma Le Lido pendant les rencontres cinématographiques entre cinéma et peinture. Ça sera le vendredi 11 mars à 20h30 au Lido, un film sur Jean-Michel Basquiat, et Pierre Ducrozet viendra nous parler du peintre en même temps en relation avec ce film. Je vais maintenant vous laisser Nathanaël vous présenter brièvement une très belle exposition que nous accueillons actuellement à la médiathèque de Manosque.
Oui, nous avons fait venir de l'Institut du monde arabe de Paris une exposition qui en fait en 6 panneaux de 2 mètres sur 2 mètres relate, compile un peu tous leurs grands centres d'intérêt, toutes les grandes expositions qui ont lieu à l'Institut du monde arabe sur tout ce que la culture arabe a pu apporter à l'Occident. Donc vous avez des panneaux sur la philosophie, notamment la redécouverte d'Aristote par Averroès, sur les mathématiques, mais également sur l'art des jardins, sur la musique, combien elle a pu influencer la musique occidentale. En fait, tous les apports positifs qui nous permettent un petit peu d'aller au-delà de ce que nous vivons aujourd'hui et de rappeler que le monde de l'Orient, le monde musulman, fut notamment au Moyen-Âge, qui, hélas, c'est un peu dit, leur période d'âge d'or, a été à l'avance sur tout ce qui était scientifique, philosophique et artistique, et dont l'Occident s'est nourri souvent pour avancer, pour que ce soit sur la médecine, sur la philosophie. La Renaissance se redécouvrira grâce justement aux traductions qui sont passées par Averroès, Aristote. Et la médecine également fera des progrès parce qu'elle aura pu traduire, parce que une école de traduction à Tolède aura pu traduire tous ces grands traités arabes. Et donc, je vous convie à cette exposition. Nous ferons des visites guidées. Voilà, donc vous pouvez téléphoner à la médiathèque et vous pouvez, suivant vos disponibilités, demander si on peut vous faire une visite guidée à telle heure ou tel jour. Vous êtes les bienvenus.
Nous vous avons présenté aujourd'hui Stand Up d'Anthony McCarten, paru chez Piranha en 2015, La Renverse d'Olivier Adam, paru chez Flammarion en 2016, À ce stade de la nuit de Maëlys de Kerangal chez Vertical en 2015, Mort d'un berger de France-Olivier Gisbert paru en 2004, Une année studieuse d'Anne Wiazemski, parue en 2012, et L'étrange affaire du cadavre souriant de Miguel Miranda, paru à l'Aube Noire en 2015. Nous vous disons au revoir et remercions Emeline, notre technicienne.
Merci, à bientôt.
À bientôt, au revoir.